Expliquer le low-code, no-code aux marketeurs et aux non-techniciens, tel est mon but aujourd'hui avec cette interview. Le low-code, no-code est un sujet qui a déjà été évoqué par Alain Lefebvre avec un regard d'expert, et nous n'avons pas fini d'entendre parler. Il m'a semblé intéressant de le traiter du point de vue opposé, c'est-à-dire celui de l'utilisateur non-informaticien, mais néanmoins avancé. Pour cela, j'ai saisi au mot mon compère Bruno Friedlanski, qui me faisait part de son enthousiasme pour ces nouveaux outils qui sortent sur le marché et qui permettent de se lancer dans la programmation sans rien, ou presque, y connaître. Ici, nous en évoquerons trois, Notion, Airtable et Zapier. Je rappelle à nouveau pour les puristes qu'il s'agit d'un point de vue de non-informaticien, et parlant de low-code et de no-code, celui-ci me semble d'autant plus pertinent, surtout pour les marketeurs. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié. Alors, je suis avec Bruno Friedlanski. Bonjour Bruno, et exception à la règle, on ne va pas parler de LinkedIn, on va parler d'un nouveau phénomène qui s'appelle low code ou no code. Est-ce que tu peux nous décrire ça en vitesse?
Oui, bonjour Yann. Alors, ma compréhension de cet univers, sachant que je ne suis absolument pas un développeur, c'est que le no code, ce sont des applications développées par des développeurs, mais pour permettre à des non-développeurs de pouvoir créer, entre guillemets, développer une application, un service, sans aligner une seule ligne de code. Donc pour moi, c'est ça, cette notion de no-code. Le côté low-code, bah, j'ai envie de dire, c'est que on peut, lorsqu'on a construit une application sur du no-code et qu'on a besoin d'aller un peu plus loin, de dépasser ce qui est faisable avec l'outil, bah, c'est de rajouter là des lignes de code, des vraies lignes de code, et donc on rentre dans le côté un peu low-code qui va mixer du code et du no-code.
Donc, en résumé, ce sont des outils qui permettent à des utilisateurs qui ne sont pas des codeurs, des développeurs, de constituer des applications, de créer des applications avec plus ou moins de travail. Et alors, on va ici se focaliser sur deux applications que tu es en train de tester, et on va se mettre à la place d'un directeur marketing, d'un quelqu'un qui n'est pas véritablement un codeur, et tu vas essayer de nous convaincre mais je suis sûr que tu vas y réussir, à utiliser ces outils. Alors, le premier, on commence par lequel? On a deux, c'est Airtable, et l'autre, il s'appelle Notion. Alors, lequel tu veux commencer?
Celui que tu veux, j'ai envie de dire, on va commencer par Airtable.
Alors, commençons par Airtable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là?
Alors, c'est un outil, je vais le dire, c'est du Excel sous stéroïde, c'est peut-être l'avenir de Excel. C'est-à-dire que je vais prendre le côté utilisation, entre guillemets, base de données qu'on peut faire dans Excel. On peut créer des bases de données, mais on est hyper limité. Airtable, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre d'avoir peut-être cette même vision de tableau, de tableur, mais avec une capacité réelle et d'être plutôt base de données. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Excel, on peut mettre différents types de contenus, du texte, des formules, des chiffres, dans des cellules, n'importe où. Dans Airtable, il faut bien comprendre que c'est structuré et c'est un champ qui correspond à un format donné. D'accord. C'est ça la contrainte. Et après, c'est la capacité de faire des vues, de faire des calculs, de faire des relations, qui est hyper puissant. Pour gérer un quotidien. Moi, je gère mes formations avec les gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils ont suivi. J'ai des formats de date, j'ai des calculs, j'ai des prix, j'ai des sessions, j'ai des tags. C'est vraiment hyper puissant à ce niveau-là.
Ça permet de faire un peu ce que faisait Microsoft Access sur un PC avant, mais directement en ligne et en important des bases de données qui existent, qui sont stockées plus ou moins bien dans Excel ou dans Google Sheets.
Exactement. Alors après, ça a aussi une puissance énorme, c'est au niveau de capacité d'interaction avec d'autres outils et de mettre en place de l'automatisation. Ils ont une API très, très forte qui permet de se connecter avec d'autres outils. Ouais. On reste dans cette dimension no-code. Hein. Je n'ai pas besoin de coder une API, c'est que j'ai l'API qui me permet d'aller me connecter avec d'autres outils qui acceptent ce même principe pour créer des liens entre des outils complètement différents. Et Airtable développe aussi des possibilités d'automatiser certaines tâches et de créer, par exemple, un formulaire. Je peux créer un formulaire à travers Airtable que je vais mettre sur le web. Les gens vont s'inscrire, ça rentre donc dans ma table et en même temps, je vais pouvoir déclencher des scénarios email.
D'accord. Et donc avec ça, je me mets toujours dans les chaussures du directeur marketing, je vais pouvoir créer rapidement une petite application pour faire une roadmap produit, un catalogue produit.
Exactement.
En fait, suivre un projet, etc. Ouais. Et puis peut-être le connecter à un Trello ou quelque chose comme ça.
Tu peux faire ton Trello à l'intérieur d'Airtable. Ah. T'as des vues qui sont spécifiques, des vues Kanban en fait. L'avantage pour aujourd'hui, si on prend l'exemple du directeur marketing, en fait, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui n'est absolument pas un codeur et qui a une idée de projet qui voudrait la tester. Mm-hmm. Avant, s'il devait passer sur le web, il devait avoir quelqu'un qui maîtrise le code, qui est technique, pour lui créer ne serait-ce qu'un formulaire, ne serait-ce qu'un mini-site, ne serait-ce que ce qu'on appelle le MVP, le Minimal Viable Product, c'est-à-dire au moins un début d'outils qui pourrait faire tester pour avoir des retours utilisateurs et le faire progresser. Aujourd'hui, il est capable de le faire tout seul. Il a l'outil qui lui permet de le faire très rapidement, très simplement, tout seul, pour aller tester son idée, pour aller obtenir en fait des retours utilisateurs qui vont lui permettre de se dire il y a un marché, il faut que j'aille plus loin, il n'y a pas de marché, il faut que je change ou que je change mon l'axe de mon idée.
Voilà un produit qui va encore donner des cheveux blancs à tous les DSI du monde.
Alors oui et non, parce que c'est pas forcément connecté au système informatique de l'entreprise.
Justement, si je mets une roadmap produit sur un outil qui est complètement déconnecté, c'est quand même un peu léger, non ?
Si tu mets une roadmap produit sur lequel tu travailles avec effectivement toute une équipe et que c'est confidentiel, oui, ça peut être problématique. Mais après, c'est sécurisé, tu as des logins, mots de passe.
Après, ça dépend aussi du niveau de confidentialité. Ouais. Si on est en train de fabriquer une centrale nucléaire ou si on est juste une start-up qui fabrique un service standard.
Ça dépend dans quel cadre tu es, oui. Tu ne vas pas mettre en cause et en péril la structure et l'organisation de ton entreprise en utilisant un outil no-code.
Ok. Donc, premier exemple, Airtable. On montrera quelques extraits dans le billet. Et deuxième outil, Notion. Alors là, il faut faire attention parce que ce n'est pas Notion.com, c'est Notion.so. S comme Sylvie, O comme Olivier. Et donc là, c'est un outil qui n'a rien à voir. Oui, j'ai pas tout compris d'ailleurs. Ça commence par les brand assets, donc le capital de marque. C'est quelque chose qui parle à des marketeurs, le logo, les fonds de page, les fontes, etc. Mais ça sert à quoi ce truc-là en fait ?
Alors en fait, c'est ce qui s'appelle un all-in-one, un tout-en-un.
D'accord.
C'est un outil qui te permet de construire presque n'importe quel presque outil qui va générer de la prise de notes, qui va générer des pages. Ça fonctionne en fait avec sous forme de blocs. Tu peux créer des pages avec plusieurs médias, pages que tu peux partager en privé sur le web pour avoir des retours de tes interlocuteurs. Tu as aussi cette petite partie qui est développée dans Airtable, c'est-à-dire la notion de base de données. En fait, tu peux reproduire également un Trello au sein de Notion que tu vas pouvoir lier avec d'autres documents. C'est vraiment en fait quelque chose, c'est la notion qui s'appelle un all-in-one, un tout-en-un, est vraiment vrai quelque part. Alors moi, pour ma part, par exemple, j'utilisais beaucoup Pocket. Pocket qui est une application qui permet de stocker les articles que tu lis pour faire ta veille.
Ouais.
Sauf que Pocket, tu stockes et après tu vas l'exploiter ailleurs. Sur Notion, tu peux presque l'exploiter au sein même de Notion. C'est-à-dire que j'ai reconstruit moi mon Pocket sur Notion, mais en même temps, je gère toutes les publications en fonction de l'usage que j'en ai. Alors, j'ai plusieurs newsletters, mais je pourrais aussi l'utiliser sur un blog. Je pourrais même argumenter chaque capture d'information et en faire une page web que je partage comme si je recréais un blog, par exemple.
Ouais. Je vois, on peut connecter à Evernote. Moi, c'est Evernote que j'utilise pour mes notes. C'est assez bien fichu. On peut importer donc sur les outils de projet Trello ou Asana. Après, on peut importer tout un tas de types de fichiers, texte, CSV, HTML, Word, ouais. Docs. Et puis après, lié aux outils comme Dropbox, par exemple, Dropbox Paper, qui est aussi une sorte d'Evernote de Dropbox. Voilà. Après, il y en a d'autres que je connais moins. Ok, et ça sert à quoi en fait? Pourquoi il faudrait que je me lève le matin pour aller utiliser Notion?
Alors, en fait, ça te permet, comme on dit souvent, de mettre toute ta vie sur un seul et même outil, et d'avoir tout au même endroit, d'avoir tout lié, de faire des liens entre tes bases. Moi, j'ai réellement reconstruit mon Evernote, reconstruit mon Trello, reconstruit mon Pocket. J'utilisais aussi un autre outil que j'ai redéveloppé entre guillemets au sein de Notion. Quand je dis développé, ça reste du no-code, hein, c'est pas de la ligne de code. C'est juste que j'ai reconstruit l'outil avec des liens, avec toutes les fonctionnalités qu'il propose pour tout centraliser à un seul et même endroit. Et il y a une application mobile, il y a une application web, et j'ai trouvé ça extrêmement puissant et intéressant dans l'approche qu'ils ont. Et en plus, alors aujourd'hui, il n'y a pas encore d'API, mais ils sont en train de travailler sur une API. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler à pouvoir connecter l'outil Notion à l'ensemble des autres outils qui ont elles-mêmes une API et qui va permettre de faire communiquer les deux outils, les deux interfaces.
Alors, si on veut aller un peu plus loin, il y a des outils qui sont plus compliqués. Plus complet aussi. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Zapier.
Alors, ouais, Zapier, c'est un connecteur d'API. Mm-hmm. C'est vraiment c'est la plateforme de référence dans tout ce qui est automatisation d'applications entre elles. Et en fait, ça te permet de prendre une API à droite, de la connecter et d'y mettre des actions avec l'API à gauche, si tu veux, pour API d'une application, avec l'API d'une autre application. Et via Zapier, en fait, tu vas créer des liens et faire travailler ensemble différents outils avec la possibilité de filtres, de sélection, d'interrogations qui vont permettre de, en fait, automatiser tous tes process et de façon très fluide, encore une fois, hein, sans développer aucune ligne de code. Ouais. Alors, par contre, il faut avoir un esprit, logique. Un esprit un peu logique, organisé, mathématique, pour comprendre comment ça marche, pour pouvoir vraiment l'exploiter à fond.
Alors, des outils comme ça, il y en a de tous les types. On a vu Zapier très, très dans les couches plutôt basses. On a vu des outils plus orientés utilisateurs comme Notion. Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a même des outils qui permettent de faire en mode low-code ou no-code des sites web. Bon, tout le monde connaît Wix ou le générateur de sites de one-to-one, mais bon, ou one-on-one plutôt. Mais bon, ça va pas très très loin. Il y a un outil qui s'appelle Webflow qui est beaucoup plus sophistiqué. Mais ces outils, donc, il y en a de toutes les sortes et de tous les types, et c'est en train d'exploser. Mais est-ce que, justement, tu me remets dans les chaussures du directeur marketing qui, là, et qui patauge déjà un petit peu en mode rattrapage du digital parce que, on connaît la situation. C'est quand même pas très simple. Déjà pas très simple et qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire. Et en plus, ce monde est en ébullition permanente. Ça devient très, très complexe. Même des gens comme nous qui sont habitués peuvent des fois être perdus. Donc, j'imagine quelqu'un qui est un petit peu moins technicien. Ça s'adresse à qui, ces outils?
Je pense comprendre que les meilleurs utilisateurs des outils no-code, c'est aussi des développeurs. Mais pas parce qu'ils sont développeurs, c'est juste qu'ils utilisent ces outils qui leur simplifient la vie plutôt que de redévelopper de A à Z quelque chose qui est possible avec un tel outil, ça va leur faire, les faire aller beaucoup plus vite. Plutôt que de redévelopper un formulaire de zéro, ils vont utiliser un outil qui leur permet de le faire en ligne en 2 secondes pour valider une idée. Encore une fois, c'est de gagner du temps et c'est de donner une opportunité à n'importe qui de pouvoir tester une idée. On est d'accord, hein, dans le domaine digital, hein, on rentre dans le digital. L'idée du directeur marketing, elle est intéressante. Je suis pas sûr qu'un directeur du marketing du CAC 40 va aller s'amuser à ça. En revanche, un directeur marketing dans une petite structure, une PME, une TPE, un entrepreneur dans une start-up, bah, il peut tout à fait aller valider son idée sans développer. Aujourd'hui, l'idée d'une start-up, c'est de se dire il faut un développeur, il faut un marketeur, il faut un commercial, un stratège. Bah, ouais, mais aujourd'hui, tu es capable de le faire sans avoir de développeur, au moins pour aller tester ton idée. Et quand tu vas... je dirais, à un certain seuil que te permet d'atteindre les outils no code, tu vas peut-être passer le cap et aller chercher un développeur tout simplement qui va aller te développer ton idée avec tes fonctionnalités si tu les trouves pas sur d'autres outils. Et je suis persuadé de la même façon, j'ai envie de te dire, si je prends une autre image qui me vient à l'esprit là en discutant, c'est que aujourd'hui je peux devenir un e-commerçant sans avoir de site de e-commerce. Je vais sur une marketplace. Je vais avoir des produits, je vais pouvoir les vendre à travers la marketplace. Je suis un e-commerçant et pourtant, je n'ai pas de site de e-commerce. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ce n'est pas la question, là. C'est juste de montrer que les outils nous permettent de faire des choses alors qu'on n'est pas forcément formé. Pour le no-code, je ne suis pas un développeur, mais je peux faire des sites comme si j'étais développeur avec... certaines limites, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, tu as du no-code pour faire des sites web, pour faire des sites mobiles, pour connecter et mettre en place des automatisations entre des formulaires, entre des factures, entre des ventes, entre des gestions de communauté, le champ des possibles est illimité.
En conclusion, le retour des L4G. Un avenir qui me semble radieux, d'autant plus que j'ai été un pionnier de la première vague, certes plus fruste de ces innovations, avec les langages L4G des années 80-90. J'étais même à l'époque devenu un des experts mappeurs, le L4G d'Unisys, avec lequel je développais des applications gestion pour les contrôleurs financiers et les commerciaux. Certes, tout cela se passait sur mainframe, mais ces outils étaient déjà incroyablement puissants. Deux gestionnaires non techniciens d'Iberia avaient ainsi tout seuls développer le système de gestion des pièces détachées de la compagnie aérienne, rien que ça. Une nouvelle ère de l'IT s'annonce, qui remet enfin l'utilisateur gestionnaire et les marketeurs au centre des usages de l'informatique. Il était temps. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast. Si vous l'avez apprécié.